faut bien comprendre qu'il y a en Colombie un conflit interne armé. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est qu'on n'a pas affaire en ce qui concerne la guérilla. Vu là, le problème n'est pas de savoir si on est d'accord ou pas avec la guérilla, si on est d'accord idéologiquement ou pas, si on est d'accord ou pas avec leur méthode. Hein. C'est pas, à la limite, c'est pas un sujet de débat, ça. Le problème, c'est de se poser la question, est-ce qu'on a affaire à des guérillas qui ont encore un projet politique, qui sont un acteur politique, ou est-ce qu'on a affaire à des gangsters, des narco-guérilleros? Bah, très clairement, sur ce que je sais, sur ce que j'ai pu voir, sur ce que j'ai pu constater, on a affaire à des acteurs politiques. Les guérillas ont encore un projet politique. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il est fiable, qu'il est viable, mais ils ont un projet politique. Ça veut dire que, premier point, la priorité des priorités, c'est la négociation. Ça veut dire relancer la guerre n'a strictement aucun sens. Relancer la guerre ne va faire qu'augmenter les souffrances du peuple colombien. Priorité des priorités, c'est la négociation. Et effectivement, c'est là qu'on est dans un moment extrêmement sensible. C'est que autant on peut négocier avec un opposant armé, avec un opposant politique, autant on ne négocie pas théoriquement avec un terroriste. Or, les événements du 11 septembre sont dans ce sens extrêmement inquiétants. Il y a eu le fameux discours du président Bush sur qui n'est pas avec nous et contre nous. On a annoncé le début d'une nouvelle croisade contre le terrorisme. Et je vais vous donner un passage du discours de l'ambassadrice américaine en Colombie la semaine dernière, donc c'est pas vieux. Hein, c'est un discours qu'elle a fait lors du premier congrès panaméricain sur le contrôle et la prévention du blanchiment d'actifs à Carthagène, où elle nous dit que les États-Unis veulent juger les membres des troupes liées au narcotrafic, c'est-à-dire FARC, ELN, ELN d'ailleurs c'est une absurdité, et paramilitaires, et au blanchiment d'argent sale, et rechercher leur extradition. Bon. Ça pose un premier problème, c'est que quand elle compare, par exemple, elle a comparé Ben Laden et le régime taliban aux trois groupes armés colombiens. Ce qui, quand on connaît la Colombie, est une absurdité totale. Hein. Mais en même temps, on ne voit pas du tout comment un processus de paix pourrait être viable si un interlocuteur risque d'être extradé dans un avion hercule vers les États-Unis. C'est-à-dire que là, on est en train de mettre un taquet, une barrière définitive qui marque la fin des négociations. On ne voit pas du tout comment ça serait possible de négocier. Il y a un point plus important, il y a un point aussi grave en tout cas, c'est que vous le savez, le Conseil de sécurité des Nations Unies a signé la résolution 1373, trois semaines après le 11 septembre, donc en soutien aux États-Unis, et les pays membres n'ont même pas essayé de se mettre d'accord sur une définition de ce qu'est le terrorisme. Or, il y a une vraie réflexion à avoir. Qu'est-ce que c'est que le terrorisme? Je veux dire, est-ce que les apatistes au Mexique sont les terroristes? Est-ce que les guérillas salvadoriennes qui luttaient contre la dictature étaient des terroristes? Est-ce que les guérillas colombiennes sont les terroristes? En ce qui me concerne, je dis non, c'est une opposition armée. Or, on ne va pas négocier avec des terroristes. Et donc là, on voit un début de stratégie, y compris le gouvernement colombien, la classe politique colombienne est en train de mettre l'accent systématiquement sur l'aspect terroriste des mouvements d'opposition armée. Et on voit mal comment des négociations pourraient se poursuivre. Vous avez actuellement l'Organisation des États américains qui est en train d'élaborer une convention interaméricaine contre le terrorisme, hein, qui serait sans doute approuvée en juin 2002 à la Barbade. Et si les groupes colombiens sont désignés comme terroristes, ça va rendre extrêmement difficile leurs relations diplomatiques avec les pays du continent, parce que les guérillas colombiennes, qui sont considérées comme des mouvements d'opposition armée, ont des relations avec un certain nombre de gouvernements d'Amérique latine. Hein. De même que vous avez des représentations des guérillas qui passent en Europe et qui viennent discuter avec le Quai d'Orsay à Paris, avec le ministère belge des Affaires étrangères. Du jour où on les déclare terroristes, je veux dire, tous ces contacts se sont terminés. Bon. C'est-à-dire que là, on a un risque extrêmement grave de dérive du conflit. Et évidemment, après le terme narco-guérilla, on va avoir le terme terrorisme. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Je n'ai pas de solution. Ce qu'il faut faire, c'est la négociation. Je veux dire, ça, c'est évident. Il n'y a pas 36 solutions. Après, on tombe évidemment sur le point clé. C'est, d'une certaine manière, qu'est-ce qui rend la négociation aussi difficile? Alors, je vous ai dit, il y a des considérations historiques, 82-85, l'Union patriotique, mais il y a d'autres, il y a un autre aspect. Et là, d'une certaine manière, il faut faire un tout petit détour par l'Amérique centrale. Salvador, Guatemala, Nicaragua. Lors des accords de paix qui ont mis un terme au conflit centra-américain, le rapport de force a fait qu'à la table des négociations, on a négocié la restauration de l'état de droit, on a négocié l'instauration de la démocratie, on a négocié la démilitarisation, on a négocié l'arrivée d'une police civile, mais le rapport de force a fait qu'on n'a pas pu négocier le social. On n'a pas pu négocier un changement du modèle économique. Bon. Moyennant quoi, les conflits se sont arrêtés en 90, 91 au Nicaragua, en 92 au Salvador, 96 au Guatemala, un petit peu plus tard. Et avec quelques années de recul, on se rend compte que c'est une catastrophe absolue. Non pas absolue, j'exagère, parce que dans ces pays qui étaient, depuis les années 30, sous dictature militaire, on a vu effectivement s'instaurer l'état de droit, ce qui pour les centra-américains n'est pas anodin, hein, parce qu'auparavant, tout opposant se retrouvait dans un cimetière. Mais sur le plan social, on assiste à une catastrophe totale. Or, si on revient au conflit colombien, on est au centre du débat. Vous avez deux positions. Et là, d'une certaine manière, que ce soit les FARC ou le LN ou même sans doute le PL, on est dans la même position. Les guérillas colombiennes vous disent, on a observé ce qui s'est passé en Amérique centrale. On a beaucoup de respect pour nos camarades d'Amérique centrale, mais on ne fera pas la même chose. On ne fera pas la même chose, c'est-à-dire que si il y a des accords de paix, ça ne peut pas être uniquement un chiffon de papier, ce n'est pas uniquement la démobilisation des combattants, ce n'est pas uniquement donner à chaque combattant un taxi, une petite boutique pour qu'il survive. On veut un changement du modèle économique. Et là, évidemment, on touche au point central. On touche au point central. Parce qu'on est en pleine vague néolibérale, parce que la loi, l'ordre, c'est ouvrir les frontières. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, 1 million d'hectares de perdus pour les paysans colombiens. Et évidemment, le gouvernement colombien et les élites colombiennes ont très envie de voir revenir la paix, parce que tout ça, c'est extrêmement douloureux à vivre. Enfin, pas tellement pour eux d'ailleurs, hein. C'est plus la population en général qui souffre que les élites, parce qu'on appelle les élites, on va mettre des guillemets à élites. Mais évidemment, le changement du modèle économique est absolument impensable. Donc, les gouvernements colombiens, entre le désir de ramener la paix qui permettrait de ramener les investisseurs, qui permettrait de développer le pays, mais en même temps la demande d'un changement social, pour le moment, ont toujours joué la guerre. Et tant que ce nœud gordien ne sera pas résolu, le conflit risque de perdurer. Or, en fait, quand on discute avec les dirigeants, là encore, aussi bien des FARC que de l'ELN, il faut sortir d'une légende aussi. Moi, j'ai des Colombiens qui ne sont pas du tout d'accord avec ce que je suis en train de vous raconter, il y en a, hein, il y en a beaucoup, je vous le précise, qui me disent, oui, mais vous ne vous rendez pas compte, les FARC, ils veulent instaurer en Colombie un régime sur le modèle de la Corée du Nord, ils veulent collectiviser la Colombie. Je veux dire, ça n'existe plus, ça c'est fini, ça. Je veux dire, les guérillas colombiennes ont suivi les évolutions du monde, et on n'est plus dans le mythe de la révolution, la prise du pouvoir, la prise de Bogota, l'instauration d'un socialisme vertical, c'est terminé. Je veux dire, ce que demandent aussi bien les FARC que le LN, et le LN en particulier à travers l'organisation d'une convention nationale, c'est l'ouverture d'espace démocratique, première chose, et puis un minimum de réformes. Ils ne demandent pas la révolution, hein. Contrairement à ce qu'on croit. On présente souvent, je pense aux FARC, comme une guérilla extrêmement orthodoxe. Non, je veux dire, vous discutez avec Raoul Reyes, qui est le numéro un des négociations, vous n'avez pas affaire à un fou furieux. D'une certaine manière, pour ceux qui connaissent un petit peu, les revendications de Reyes ou de l'ELN, quand ils vous en parlent, vous pourriez les mettre dans le programme d'attaque. Vous pourriez les mettre dans le programme de n'importe quelle ONG qui est ici en Belgique, en France ou en Espagne. Hein. Réforme agraire, une réforme agraire, c'est pas la révolution. Hein. Je veux dire, une transformation sociale qui ne demande pas simplement qui demande pas l'instauration d'un régime socialiste sur le modèle des années 60, 50, etc. Bon, on n'est plus dans cette logique-là. Cela étant, effectivement, la difficulté, c'est que les gouvernements latino-américains et donc le gouvernement colombien ne sont pour le moment pas disposés à envisager un quelconque début de commencement de transformation sociale, et que là, il y a un blocage. Et que, par rapport à votre question, malheureusement, j'ai pas de solution. Sauf que, très honnêtement, et y compris en discutant avec des Colombiens qui ne sont pas dans la guérilla, je veux dire, vous avez beaucoup de Colombiens qui demandent la transformation sociale. Vous savez que Reporters sans frontières vient de sortir un rapport. La Colombie est le pays du monde où il y a le plus de syndicalistes assassinés. C'est-à-dire que la criminalisation des luttes sociales est, par exemple, l'un des points cruciaux. Que demandent les guérillas? Les guérillas demandent un véritable combat de l'État contre les paramilitaires. Bon. C'est un des points clés. C'est aussi un des points pour lesquels, sur lesquels les négociations achoppent. Le gouvernement fait semblant de croire qu'il ne peut pas en finir comme ça avec les paramilitaires. Il ne faut pas nous raconter de salade. Moi, je me souviens, Salvador, années 80, les escadrons de la mort, Orden. Hein, vous aviez des milliers d'assassinés comme en Colombie aujourd'hui. Le gouvernement signe les accords de paix. Quasiment en 6 mois, il n'y a plus d'escadrons de la mort. Il y en a toujours un petit peu, il y a des résurgences. Mais je veux dire, le phénomène, il est contrôlable, il est contrôlé parce que ce n'est pas des gens incontrôlables. Parce que c'est des gens qui sont en lien avec les militaires. Le vrai problème aussi, moi je ne vous le cache pas, c'est une question que je me pose, je ne suis pas sûr que le président Pastrana gouverne la Colombie aujourd'hui. Je ne suis pas sûr qu'en fait, ce n'est pas l'armée qui gouverne la Colombie, et que ce n'est pas un certain nombre de secteurs économiques et financiers qui, à travers les paramilitaires et l'armée, gouvernent réellement la Colombie. Et j'en veux pour preuve que la manière dont on a saboté complètement les négociations de paix avec le LN. Sur les chiffres, le gouvernement colombien a sollicité l'Union européenne pour 1,3 milliard de dollars. En fait, l'Union européenne, consciente du fait que le plan Colombie est un plan de guerre et que c'est un plan américain, parce que je précise, je ne sais pas si je l'ai dit, que ce plan Colombie a été rédigé en anglais, c'est quand même un petit peu étrange en Colombie, puis ensuite traduit en espagnol, qu'il y a 3 versions qui ont circulé, toutes différentes. La version qui a été signée aux États-Unis, la version qui a été présentée aux Colombiens et la version qui a été présentée à l'Union européenne. Bon. L'Union européenne, donc, a renaclé sur cette affaire. Elle n'a, en gros, jusqu'à présent, si je ne me trompe pas, si je n'ai pas oublié, si je n'ai pas raté 1 ou 2 épisodes, elle n'a accordé que 300 millions de dollars sur les 1,3 milliard qui étaient demandés, en précisant bien que ce n'était pas dans le cadre du plan Colombie, mais que c'était dans le cadre de l'appui aux accords de paix. Bon, ça, c'est une première chose. Hein. On a évidemment, alors si je regarde un petit peu l'Union européenne, il y a 2 courants. Il y a un courant qui est prêt à appuyer le plan Colombie, je ne vais pas vous surprendre. Il y a Tony Blair en Angleterre, comme toujours, derrière les Américains, sans réfléchir si je peux être méchant. Et puis Aznar en Espagne. Les Belges, je pense, pour ce qui vous concerne, sont très réticents. Les Français sont plutôt réticents aussi, et donc jusqu'à présent, on n'a pas vraiment mis le doigt dans l'engrenage, tout en mettant un petit peu quand même. Après, se posent 2 questions. Pourquoi est-ce qu'on a l'Union européenne à accorder 300 millions de dollars, plutôt que de dire, eh ben non, c'est de toute façon dans le cadre du plan Colombie, c'est un plan de guerre, donc on ne va pas dans l'histoire. Je crois qu'il ne faut pas non plus être naïf. Hein. J'ai dit tout à l'heure que la Colombie était un pays riche, la Colombie est un pays pétrolier, et l'Union européenne a aussi des compagnies pétrolières qui piaffent à la porte. Et il ne s'agit pas, alors tout en se prenant des distances par rapport au plan Colombie, il ne s'agit pas non plus de se fâcher avec Bogota. Hein, donc on met le pied dedans sans mettre vraiment le pied dedans. Après, on va se trouver confronté à un point crucial, une échéance, comme ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est que l'Union européenne va, dans les semaines qui viennent, établir une liste des organisations terroristes. La question est de savoir si elle va y intégrer les organisations colombiennes. Auquel cas, là encore, on change complètement la donne. Parce que si l'Union européenne intègre en particulier les guérillas colombiennes dans la liste d'organisations terroristes, il est évident que la logique ensuite c'est d'appuyer le plan Colombie. Qui d'ailleurs, entre parenthèses, n'est plus le plan Colombie, mais l'initiative régionale andine. C'est-à-dire que l'intérêt des États-Unis pour la Colombie ne les amèneront sans doute pas à une intervention directe. Ils sont en train, depuis maintenant 2 ans et demi, je ne sais plus, parce que le temps passe très vite, d'essayer d'organiser une coalition latino-américaine qui, dans le cadre d'une mission humanitaire, rentrerait en Colombie pour raisons humanitaires. Alors, pour le moment, ils avaient un allié de taille, Fujimori, mais pour des raisons qui n'ont rien à voir, Fujimori n'est plus dans le coup, mais Toledo est tout à fait partant pour ce vent d'aventure. En revanche, vous avez un poids lourd de l'Amérique latine, comme le Brésil, qui n'est pas du tout d'accord pour s'impliquer dans cette affaire. J'ai encore vu l'ambassadeur brésilien à Paris la semaine dernière, ils sont très réservés par rapport au plan Colombie. Mais il y a aussi, je ne vous en ai pas parlé, il y a un retour de la militarisation d'Amérique latine. Si je prends, je finis sur l'Europe, les Pays-Bas, dont on pensait qu'ils étaient plutôt peu favorables au plan Colombie, en réalité, dans les discours, sont plutôt peu favorables, mais en même temps, ont permis aux États-Unis d'avoir une base aérienne sur l'île de Curaçao, dans la Caraïbe, qui est une île hollandaise, hein, d'où les avions américains vont espionner vont espionner les guérillas colombiennes. À cet égard, d'ailleurs, c'est intéressant parce que la situation régionale a aussi son importance. Vous avez au Venezuela un président qui est très controversé, Hugo Chavez, qui lui a interdit aux avions américains partant de Curaçao de survoler son territoire pour aller en Colombie. Donc, une situation très, très, très confuse. Mais en même temps, quand on regarde d'une manière plus générale, on se rend compte que les Américains ont installé une base militaire en Équateur, donc sur la frontière sud de la Colombie, à Manta. Ils ont maintenant une base au Pérou, à Iquito. Ils sont en train de réinstaller des bases en Amérique centrale, comme à La Guaira au Salvador, comme dans les années 80, ou Honduras. Et donc, on assiste petit à petit à la mise en place d'un mécanisme qui pourrait permettre demain d'intervenir sous une forme ou sous une autre en Colombie. Oui, juste ajouter une chose. Bon, je suis très content que vous ayez évoqué les syndicats, les mouvements paysans, etc. Parce que, évidemment, en relativement peu de temps, et dans la mesure où la Colombie est un pays en conflit, qui traverse une crise grave, la tentation, enfin, c'est-à-dire, c'est ce qui compris ce que j'ai fait ce soir, c'est de parler des acteurs armés. Cela étant, en Colombie, il n'y a pas que les acteurs armés. Vous avez aussi tout un mouvement syndical, un mouvement paysan, des organisations de défense des droits de l'homme, des organisations de femmes qui luttent. Donc il ne faut pas les oublier dans cette affaire. Hein. Y compris, je dirais qu'ils sont plus nombreux que les acteurs armés, beaucoup plus nombreux que les acteurs armés. Toute la difficulté pour eux, c'est qu'ils sont dans le... Et je voudrais juste peut-être terminer sur cette question, sur la notion de ce qu'est une guerre civile. Ils sont dans le cadre d'une guerre civile. Alors, bien souvent, quand je parle d'une guerre civile, on me dit, ah bon, il y a la fameuse thèse officielle, c'est pas une guerre civile, c'est une guerre contre la société civile. Parce que on a cette espèce de vision un peu romantique d'une guerre civile dans laquelle on imagine par exemple qu'en Espagne, il y avait 50% de l'Espagne qui était franquiste et 50% de l'Espagne qui était républicaine. C'est pas ça du tout. Je veux dire, en Espagne, au moment de la guerre d'Espagne, vous aviez une minorité de franquistes, vous aviez une minorité de républicains purs et durs, et puis au milieu, vous aviez des gens qui souffraient de la situation, qui attendaient que ça se passe, qui attendaient de voir qui était le vainqueur. Bon, on a la même situation en Colombie. La population souffre terriblement de la situation. Elle est dans une... Qu'est-ce que c'est qu'un phénomène de guerre civile? C'est un engrenage terrible. On ne peut pas, je crois que vous l'avez compris dans mon propos, faire un parallèle entre paramilitaires et guérilla. Hein, je veux dire, la théorie des deux Satans, elle ne tient pas. Bon. Cela étant, il faut être clair, je veux dire, les guérillas ne sont pas des Boy Scouts. Hein, je veux dire, c'est une guerre extrêmement dure. La logique dans laquelle se trouve confronté le Colombien, c'est qu'il a des sympathies pour la guérilla. Il va être assassiné par un paramilitaire. La guérilla qui a ses informateurs va essayer de savoir qui a informé les paramilitaires et va exécuter l'informateur. Et puis il y a des bavures, et puis il y a des erreurs, et puis il y a des faits de la guerre, et donc on tue quelqu'un qui n'était pas du tout impliqué. Et moyennant quoi, le petit frère du quelqu'un en question va passer chez les paramilitaires, qui à son tour va tuer quelqu'un, qui va passer à la guérilla. On est dans des logiques terribles. Hein. C'est une guerre qui est extrêmement dure. Ensuite, vous avez une chose qui est extrêmement importante en Colombie, c'est la difficulté des Colombiens eux-mêmes pour comprendre ce conflit. Alors je ne dis pas que je comprends mieux qu'eux, pas ça le problème. Mais d'une certaine manière, j'ai l'avantage d'être extérieur, ce qui permet de se détacher un petit peu. Et en particulier, moi, ce qui me frappe en Colombie, c'est le divorce vraiment total entre les villes et les campagnes. Si je prends le discours des classes moyennes, je veux dire, s'ils m'entendaient, là, je veux dire, je ne ressortirais pas vivant, je plaisante. Hein, ils ne supportent pas qu'on tienne sur les guérillas ce que je suis en train de vous dire. Hein, supportent pas, mais parce qu'ils en souffrent les conséquences. Parce qu'ils font partie des gens qui se font enlever, parce qu'ils font partie des gens qui ne peuvent plus prendre leur voiture pour aller sur la côte passer des vacances. Tant entendu qu'ils ne se soucient pas beaucoup des 80% des 13 millions de paysans qui, eux, ne pensent même pas prendre des vacances et qui n'ont pas de voiture. Pendant très longtemps, les classes moyennes, dans les villes, ne se sont même pas rendues compte qu'il y avait un conflit en Colombie. Parce que le conflit, en fait, se passait dans des campagnes lointaines et que les victimes étaient des guérilleros, des soldats ou des paysans. Et les villes n'étaient pas touchées. Et en fait, il y a eu une prise de conscience qu'il y a une guerre que parce qu'il y a, avec cette affaire des enlèvements. Et là, ce qu'on appelle la société civile, mais vraiment, je refuse ce terme, les classes moyennes ne se rendent pas compte qu'il y a une guerre. Elles ont vraiment le sentiment, très, très, très sincèrement, d'avoir affaire à des bandes de gangsters. Ensuite, quand vous allez traîner un peu dans les quartiers défavorisés, alors je pense en particulier à Ciudad Bolívar, à Bogota, hein, c'est 2 millions d'habitants dans des conditions absolument infâmes. C'est-à-dire, en gros, en général, l'habitant des classes moyennes de Bogota n'a jamais mis les pieds à Ciudad Bolívar. Bon. Ou vous allez dans des banlieues de petites villes, vous allez dans les campagnes. Vous discutez avec les gens. Ce ne sont pas forcément des soutiens de la guérilla. Mais de temps en temps, vous entendez des trucs où on vous dit « Nous, on veut bien la paix, mais faut pas que ce soit la paix des riches. » Vous dites « Attends, qu'est-ce que ça veut dire, pas la paix des riches ?»« Ben, nous, on veut bien la paix, mais faut y être la transformation, pour que ça change. » Vous avez affaire à des gens qui vous disent... Alors, c'est vachement compliqué aussi de travailler en Colombie. Alors, quand vous êtes journaliste, tout le monde a peur. Tout le monde a peur. Y compris, il faut être clair, moi je crois vraiment que l'appui à la guérilla, il est réel. La guérilla a des bases sociales, hein, y compris moi j'ai rencontré des bases sociales de la guérilla. Mais vous avez aussi un tas de gens qui sont des appuis réels, qui ont une certaine sympathie ou qui ont une connivence, mais qui jamais vont vous le dire. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas le dire, vous ne pouvez pas dire je suis pour la guérilla. Donc il est absolument impossible de quantifier la base sociale de la guérilla. Vous en rendez compte à des détails. Et là encore, je précise bien, elle est minoritaire dans le pays, cette base sociale. Mais elle existe. En même temps, elle est colombienne. Hein, et même s'il y avait 10%, même s'il y avait 8%, c'est pas anodin. Hein, c'est un courant politique. Hein. Mais vous arrivez dans un village de paysans, dans une population indigène. Alors c'est très intéressant parce que c'est vrai que les guérillas ont eu des grosses difficultés, ou plutôt les indigènes ont eu des difficultés avec la guérilla. Hein. C'est deux logiques complètement différentes. Les indigènes sont dans leur logique d'indigène, leur territoire, pas très intéressés par le destin de la nation. Et puis les guérilleros sont plutôt jacobins, centralisateurs, le modèle qui vient d'en haut. Hein. Donc il y a des difficultés. Vous arrivez dans une population, dans une communauté indigène qui a été touchée par les fumigations. Et puis vous discutez avec les gens sont très prudents, donc ils vous racontent les fumigations, mais en même temps vous vous rendez compte qu'ils n'ont pas une grande sympathie ni pour l'armée ni pour les paramilitaires, c'est clair. Détail quand même, quand on est journaliste en Colombie, quand vous rencontrez des gens, la première chose qu'ils dénoncent, c'est les paramilitaires. Et il faut que vous les emmerdiez, vraiment, en leur disant « Oui, mais attendez quand même, et la guérilla, vous en dites pas ?» Vous dites de temps en temps « Ah oui, c'est vrai, la guérilla, mais c'est pas pareil. » Et ça, c'est dans les campagnes, c'est vraiment quelque chose de statistiquement, je pourrais m'amuser à faire les statistiques, c'est très parlant. Communauté indigène, j'arrive jusqu'au leader de la communauté indigène. Et donc on parle des fumigations, etc., nanana, nanana. Et puis à un moment, il me dit « Mais dites-moi, vous qui êtes un journaliste international, parce qu'il est comme Hernando, il me prend pour une personnalité, vous qui êtes un journaliste international, vous savez bien quand même pourquoi il a fait le plan Colombie. » Moi qui suis un journaliste international, je dis « Non, écoutez, je ne sais pas, expliquez-moi. » Enfin, vous savez bien, c'est pour en finir avec notre révolution. C'est-à-dire que vous tombez dans des endroits où vous ne vous attendiez pas du tout à ce discours-là, dans les populations indigènes, et vous tombez sur des gens dont vous vous rendez compte qu'ils ont une connivence, je ne dis pas qu'ils sont liés à la guérilla, mais qu'ils ont une connivence avec elle. Vous tombez dans le département du Cauca, par exemple, sur des patrouilles des FARC ou de l'ELN, vous tombez sur des Indiens. Alors on a tendance à arranger les gens par catégorie, hein, c'est-à-dire que les Indiens seraient opposés aux guérillas. C'est extrêmement compliqué. Vous avez des aberrations dans le sud Bolivar, par exemple. Les paysans cultivent la coca. Le LN est contre le narcotrafic, donc contre la coca. D'accord ? Les paysans sont attaqués par les paramilitaires. Mais les paysans vendent leur coca avec des intermédiaires aux paramilitaires. L'armée qui est liée aux paramilitaires attaque les FARC sous prétexte de lutter contre le narcotrafic. Bon, on est dans une espèce de situation dans laquelle vous avez beaucoup de mal à tirer les fils. Hein. C'est en particulier ce qui explique qu'on s'est rangé, en ce qui concerne la Colombie, à des idées relativement simples. C'est-à-dire qu'il y a l'anarcho-guérilla, il n'y a plus d'idéologie. Bon. Or, c'est un conflit à la fois difficile, mais ce qui a été dit ici est juste. Je veux dire, c'est fondamentalement un conflit social. C'est fondamentalement un conflit social. Et le cœur du problème, c'est à la fois une réforme de l'État qui permettra à une opposition de s'exprimer. Hein, si demain les guérillas participaient aux élections, je veux dire, elles vont faire ce qu'ont fait les guérillas salvadoriennes la première fois. Elles vont faire 8% des voix, 10% des voix, j'en sais rien, peut-être moins. Mais ensuite, je vous donne ça, alors non pas pour vous dire qu'il se passerait la même chose en Colombie. Hein. Je me souviens quand au Salvador, lorsque je tenais un discours qu'en fait qui ressemblait assez à celui que je foutais un bouquin ce soir, c'est pas par habitude. Hein. Et je me souviens que quand j'allais voir le FMLN dans ces zones, on me disait tu vas voir les Polpociens, comme on dit aujourd'hui les FARC, tu vas voir les Polpociens. C'était considéré comme des bandes de terroristes, des toutes petites minorités coupées de la population, sans appui, sans rien. Et puis la paix est arrivée, le FMLN aux premières élections a dû faire 12% des voix ou 10%. Aujourd'hui, c'est la première force politique du Salvador, 10 ans après. Sur un programme d'ailleurs social-démocrate, plus sur un programme révolutionnaire. Mais là où j'incite tout le monde à la prudence, je ne suis pas en train de vous dire que la guérilla a une très très large base sociale, c'est pas vrai, je veux dire, une guerre civile, ça déstructure politiquement. Et je veux dire, les gens ont tellement souffert que, y compris, ils disent là, c'est de la faute de la guérilla, tout ça, tout ce qui nous arrive, les paramilitaires, c'est de la faute de la guérilla. Ce qui est une explication logique quand on est pris dans la tourmente, ce qui, quand on analyse politiquement, n'est pas vrai, mais peu importe, les gens le vivent comme ça. Hein. Mais cela étant, je veux dire, le jour où en Colombie s'ouvrira un espace démocratique et le jour où il sera possible de penser à des réformes sociales, on aura déjà fait un grand pas. Le problème, c'est que pour le moment, on veut bien accepter à la limite l'ouverture d'un espace démocratique, mais que c'est les gens susceptibles de s'y engouffrer ne savent pas s'ils vont pas se faire assassiner, et puis que de toute façon, on vous dit très clairement, il est hors de question de changer le modèle social. Donc si vous rajoutez à tout ça des événements internationaux, ça m'ennuie toujours de terminer une rencontre de ce genre sur un mode pessimiste, mais honnêtement, la situation n'est pas extraordinaire, quoi.